Ce soir, nous recevons Ginette Wagenheim, maître de conférence de latin à l'Université de Rouen, pour une conférence intitulée « Du Rwanda à Homer et Virgile, récit d'une expérience personnelle ou comment l'Europe plongea ses racines en Afrique ». Cette leçon s'inscrit dans la série des 9 conférences consacrées au thème de « Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?» proposées jusqu'au 19 octobre inclus. Les prochaines conférences auront lieu en janvier 2009 autour du thème du magnétisme. Albert Fert, prix Nobel de physique 2007, sera présent le 15 janvier 2009. Un mot sur les différents modes de diffusion de l'Université de tous les savoirs. Je vous renvoie au programme que nous distribuons à l'accueil. Où vous pouvez retrouver les adresses des sites internet où les conférences sont diffusées en direct et différé. À la radio sur France Culture, entre 6h et 7h du matin, dans le cadre de l'émission L'Éloge du Savoir, seront diffusées à la mi-février ces conférences, le jeudi et le vendredi. Et les éditions Audi Jacob, qui ont publié les conférences de l'an 2000 à travers 6 grands ouvrages et 20 volumes poche. Depuis lors, nous avons choisi de mettre en ligne les textes sur www.utls.fr. Je vous présente la conférencière de ce soir, qui est née en 1961 au Rwanda, de père franco-rwandais et de mère belgo-burundaise. Elle est maître de conférence de latin à l'Université de Rouen, habilitée à diriger des recherches. Pour son parcours, elle a une licence et maîtrise en philologie classique à l'Université de Louvain, un DEA de philologie de textes médiévaux et de la Renaissance à l'Université Cattolica del Sacro Cuore de Milan, un doctorat en histoire de l'art et d'archéologie ancienne à l'École normale supérieure de Pise, et depuis 2001, membre junior de l'Institut universitaire de France. Ses travaux, une cinquantaine de contributions, portent sur l'histoire de la culture classique à la Renaissance. Et elle a publié de nombreuses... Ses travaux ont été publiés dans diverses revues internationales spécialisées. Je vous renvoie donc à sa bibliographie qui se trouve sur le site internet. Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec le public. Merci.
Merci. Dans le roman latin de l'Africain Apulé, intitulé L'Andor, la curiositas, curiosité, conduit le jeune héros Lucius à travers d'inlassables péripéties à la connaissance et à la sagesse philosophique. Comme l'a deviné Yves Michaud, c'est animé d'une curiositas analogue qu'une femme née au Rwanda en 1961, qui dans son enfance parlait français, mais aussi Kinyarwanda et un peu de Swahili, est devenue enseignant-chercheur en langue et littérature latine à l'Université de Rouen. Pour expliquer mon itinéraire, il me faut d'abord faire le récit de la vie de mes parents, celle de mes grands-parents et d'autres membres de ma famille. En effet, si les destins de leur vie ont conditionné leur accès à l'instruction, c'est en revanche grâce à leur humanisme qu'ils ont pu tracer, avec le bagage qui était le leur et à travers de nombreuses embûches, la voie qui a mené ma génération et la suivante, sinon à la sagesse philosophique, du moins à un accès libre, égal et fraternel au savoir, et qui a orienté mes études vers les humanités. Car en ce qui me concerne, il n'y a rien qui m'ait différencié de n'importe quelle petite écolière belge à partir du jour où je me suis retrouvée en 1967 avec ma grande sœur Angélique sur les bancs d'une école primaire à Deunbergen pour apprendre à lire et à écrire. Rien ensuite qui m'ait distinguée de mes condisciples du secondaire, ni plus tard des étudiants de l'Université catholique de Louvain et de celle de Milan, puis de ceux de l'École normale supérieure de Pise et du Warburg à Londres, où nous nous formions au métier de chercheur. L'histoire mouvementée et foisonnante de ma famille, j'ai choisi de vous la raconter à travers un album de photos, de qualité médiocre, hélas. Elle dessine une géographie fascinante qui nous conduit d'abord du début du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, de la Moselle germanophone aux colonies allemandes d'Afrique orientale, en passant par la Catalogne, puis de l'entre-deux-guerres à la décolonisation, cette fois de la Belgique au territoire du Rwanda-Urundi, appelé territoires occupés, à partir de leur annexion à la colonie du Congo au terme de la Seconde Guerre mondiale. Commençons par mon grand-père paternel, Frédéric Wagenheim, dont le berceau familial se trouve à Mutterhaus, en Moselle. C'est là que vécurent ses grands-parents, Pierre Wagenheim et Catherine Walter, tous deux tailleurs sur cristaux, et que vint au monde, au milieu d'une nombreuse fratrie, son père Claude, verrier de profession. Claude épouse à Clichy en 1861 Hélène-Louise Leclerc, originaire de Saint-Louis-les-Beach. Était-ce pour exercer le métier du verre dans de meilleures conditions économiques que ces Lorrains avaient quitté leur région au cours du XIXe siècle et parcouru l'Europe? Toujours est-il qu'après Clichy, où naquirent plusieurs de leurs enfants, Claude et Hélène-Louis se retrouvent à Badalone, où mon grand-père voit le jour, le 21 mars 1871, avec la nationalité française, 2 mois avant le traité de Francfort qui ampute la France de l'Alsace-Lorraine. Il fut prénommé Frédéric Velleda. Je vous conseille de prendre note de ma généalogie qui va se compliquer au fil des pages. Plus de traces de Frédéric jusqu'au 7 septembre 1914, quand on le retrouve à Tabora, dans l'actuelle Tanzanie, qui à l'époque était le territoire du Tanganyika. Il formait avec le Rwanda-Urundi la partie orientale de la Deutsche Ostafrika depuis le traité de Berlin de 1885. Le document qui révèle la présence de mon grand-père à Tabora est une attestation de la société de construction Philipp Holtzmann de Francfort, où il est dit que Frédéric Wagenheim a supervisé avec succès les travaux de construction de la voie ferroviaire entre Dar es Salaam et Morogoro à partir de 1909 et de Morogoro à Tabora jusqu'au 15 août 1914. La Tanganyika Bahn suivait l'ancien itinéraire des caravanes depuis Dar es Salaam sur la côte jusqu'au lac Tanganyika, sur lequel Tabora avait toujours été une étape importante, notamment pour les premiers explorateurs. À partir de 1885, Tabora devint la principale station militaire allemande du Tanganyika. Ce document est aussi un rare témoignage du projet mis en place à l'époque de prolonger la voie ferrée à travers le Rwanda en créant la Rwandabahn. Elle aurait permis l'exploitation d'un pays qu'avait décrit en termes dithyrambiques le duc Adolf Friedrich von Mecklenburg-Schwerin à son retour de l'expédition scientifique de 1907-1908. « Le Rwanda, écrit-il, est bien le pays le plus intéressant des protectorats Deutsche Ostafrika, compte tenu de sa situation géographique et ethnographique. Il est aussi d'un très grand intérêt parce qu'il est l'un des derniers royaumes d'indigènes qui soit encore totalement dirigé par un roi et qui soit très peu indépendant de la souveraineté de l'Allemagne. » En outre, c'est un pays où coule le lait et le miel, où l'élevage et l'apiculture sont florissants. C'est un pays montagneux, très densément peuplé, avec un très beau paysage, un climat incomparable. Avec sa terre fertile, ses nombreux cours d'eau intarissables, c'est une région qui présente aux colons blancs de brillantes perspectives. Mais ces brillantes perspectives, ainsi que le projet du Rwandabahn que construisait mon grand-père, furent brusquement anéantis quand le 31 juillet 1914, le croiseur léger Königsberg quitte Dar es Salaam et coule près de Zanzibar le Pegasus, un important navire anglais. C'est le début des hostilités en Afrique. À la fin de l'année 1916, les Allemands quittent les territoires du Rwanda-Urundi pour porter leur effort de guerre à Tabora. Le 16 septembre, les troupes du général belge Tombeur livrent une bataille qui est décrite comme un glorieux fait d'armes dans les chroniques de l'époque. Il est question de sable, de plaines sablonneuses, de rivières taillies, d'eau noirâtre dans les rares fonds marécageux, enfin de durs combats où la ténacité des troupes eut finalement raison de la résistance ennemie, si bien que le 19 septembre, le drapeau belge flotte sur Tabora. Pour la Belgique, Il importait en effet que l'opinion publique soit convaincue de son rôle décisif dans la bataille finale, afin de justifier des prétentions déjà anciennes sur les territoires du Rwanda-Urundi. Mon grand-père, qui avait été fait prisonnier à Tabora, à une date et dans des circonstances inconnues, fut libéré par les troupes belges, sans doute le 19 septembre, en même temps que près de 200 autres Européens. Il avait en effet déclaré à l'officier belge qui l'interrogeait qu'il était français, ce qui à l'époque sauva la vie à cet Alsacien et qui aujourd'hui sauve celle de ses descendants, puisque c'est grâce à cette déclaration de 1916 par laquelle mon grand-père affirmait sa possession d'état de français que mon frère Frédéric a pu obtenir, après d'inlassables péripéties lui aussi, le fameux certificat exigé depuis les lois Pasqua sur l'immigration pour établir la nationalité française. Le consulat de France à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, accéda à la requête de l'officier belge d'enrôler à ses côtés Frédéric, qui connaissait parfaitement la région de Tabora. Après la victoire finale, qui valut à mon grand-père plusieurs distinctions, dont la médaille d'argent de l'Ordre royal du Lion, Frédéric fut engagé par les Belges aux travaux publics pour diriger la construction de routes et de ponts au Rwanda, puisqu'il n'était plus question de trains traversant la Deutsche Ostafrika, désormais coupée en deux par le traité de Versailles. Au Rwanda, Frédéric rencontra ma grand-mère, Wanghundie, Rebecca de son nom protestant. Mais avant de relater la brève histoire de mes grands-parents paternels, je voudrais me tourner un instant vers la famille de ma grand-mère maternelle, Chimpaye, dont un parent travaillait en 1914 sous la direction des Allemands, exactement comme mon grand-père, et qui, comme lui, se trouvait à Tabora en 1916. Il s'agit de Baranyanka, Pierre de son nom chrétien. Lorsque les Allemands quittent le Burundi pour se replier sur Tabora, ils emmènent avec eux de nombreux porteurs et des soldats indigènes, les fameux Askaris, que commandait Baranyanka, âgé de 25 ans environ, et qui parlait le swahili et l'allemand. Ce grand-oncle de maman avait appris ces deux langues à l'école que les Allemands avaient fondée à Gitega en 1913, 10 ans après la signature du traité de Kiganda, qui imposait au roi Mwezi Gisabo, vaincu par les fusils, de reconnaître la domination allemande tout en lui permettant de rester roi, Mwami. Ce fut la fin de l'intégrité du Burundi et le début de la conquête missionnaire des Pères Blancs. À côté des écoles de mission, les Allemands ouvrent 2 écoles de gouvernement dans le but de former, parmi l'élite traditionnelle, des cadres destinés à les seconder dans l'administration. C'est ainsi que Baranyanka se retrouve à Gitega, sur les mêmes bancs que son cousin, le roi Mutaga IV Mbikiye, fils de Mwezi Gisabo. Tous deux descendaient du roi Nhare IV et étaient donc des Ganois, c'est-à-dire des princes de sang. Baranyanka appartenait au clan des Vatare, la lignée à droite, et le roi à celle des Bézi. Vers 1914, les Allemands confirment Baranyanka comme successeur de son grand-père Mudari dans la chefferie de Gitega. Vaincus à Tabora, les Allemands renvoyèrent chez eux les hommes qu'ils avaient enrôlés, parmi lesquels Baranyanka, après lui avoir donné une tenue vestimentaire censée le protéger des représailles de ses nouveaux maîtres. Mais ce fut en vain, car de retour sur ses terres, Baranyanka se vit signifier sa condamnation à mort par le commissaire royal belge pour collaboration avec l'ennemi. En d'autres termes, en 1918, Baranyanka était accusé d'avoir trahi le nouvel envahisseur, alors que la Belgique n'avait à cette date aucune légitimité juridique sur le territoire. Ce n'est que 5 ans plus tard, en 1924, que la Belgique votera la loi entérinant la décision de 1922 de la Société des Nations de lui confier la tutelle sur le Rwanda-Urundi. Toujours est-il qu'en 1918, le résident Reichmans, Pierre, gracia Baranyanka d'une trahison qu'on l'avait accusé d'avoir commis dans une guerre importée d'Europe sur ses terres. Ce qui toutefois est le plus ahurissant aujourd'hui, c'est que certains historiens, souffrant de myopie européocentrique, continuent à insinuer que Baranyanka a collaboré avec les Allemands. Malgré les différences de statut que symbolise cette photo, les deux hommes se lièrent d'une amitié qui dure encore aujourd'hui parmi leurs descendants et que vinrent renforcer plus tard les liens du baptême. Commence alors pour Baranyanka, sous le nouvel occupant, une nouvelle vie qui fera de lui dans les années 30 le chef du Burundi le plus respecté. Grâce aux arguments historiques de mon arrière-grand-oncle, le Burundi gagna le procès contre le Rwanda pour la rétrocession de la région Buyenzi qui abritait les tombes royales. En 1926, le roi Albert Ier lui décerne la médaille d'or de l'Ordre royal du Lion pour avoir évité la famine qui ravageait le nord du pays. Il se lance ensuite dans la culture du café qu'il avait découvert sous l'occupation allemande, mais c'est grâce au programme de développement agricole mis en place en 1932 par le gouverneur Charles Voisin qu'il prospère dans cette activité, aux grandes dames des investisseurs belges privés qui toléraient, je cite, que les indigènes produisent du coton, du palmier, en gros les produits qui n'intéressent pas trop les Européens, pourvu qu'ils ne se posent pas en concurrent direct des Européens. Fin de citation. Malgré cette inégale concurrence, Baranyanka encouragea la culture du café dans sa chefferie de Kayanza, en même temps qu'il créa des coopératives indigènes de commerce équitable pour sa vente. Ce qui lui valut d'être nommé officier de l'Ordre royal du Lion par le roi Baudouin cette fois. Cette distinction s'ajoutait à la médaille de l'effort de guerre que Baranyanka avait reçue pour l'aide apportée aux familles des victimes de la guerre de 40, au moment précis où mon grand-père, Frédéric, récoltait au sein de la communauté musulmane, au nom des anciens combattants interalliés, les dons destinés à l'œuvre du colis du soldat. Un double geste qui paraît surréaliste aujourd'hui, si l'on se met à imaginer, d'une part, Baranyanka prélevant la dîme sur sa récolte de café pour secourir la veuve et l'orphelin belge, et d'autre part, mon grand-père alsacien venant en aide aux soldats belges pour la seconde fois, mais un geste qui révèle une même solidarité paradoxale, je veux dire celle qui naît là où l'on ne l'attend pas et qui dévoile la part d'humanité qui se cache derrière l'histoire parfois inhumaine. Cette photo de Baranyanka, âgé de 70 ans, bardé de médailles, et entouré de ses danseurs, fut prise en septembre 1960 pour la fête de ses 50 ans de chefferie à Kayanza. Elle immortalise sans doute l'un des derniers moments de bonheur d'un grand homme que la tragédie politique allait frapper de plein fouet 3 ans plus tard en lui arrachant ses 2 fils aînés, puis en le jetant en prison après l'avoir privé de tous ses biens, mais pas de son honneur. Avant d'évoquer cette tragédie, revenons à mon grand-père Frédéric, qui devint père de Pierre en s'unissant à ma grand-mère, Bangundie, alias Rebecca, une femme du clan royal des Niginya, dont le totem est une grue couronnée. Le roi Kigeri IV Rwabugiri, premier Mwami à avoir rencontré un Européen en 1894, le comte von Goetzen, avait agrandi son pays en combattant ses voisins, et notamment le royaume Ankolais, dans l'actuel Ouganda, riche en bovidés de la race aux longues cornes appelée Inyambo. Il finit par soumettre la farouche résistance du chef Ankolais Rusera en lui donnant en mariage sa fille Karunganwa. En seconde noce, Rusera épouse Nirubhuriri, mon arrière-grand-mère, faiseuse de pluie à la cour. Elle mettra au monde ma grand-mère Rebecca, puis sa sœur, née d'un autre père, Mukang Hundie, Saïdati de son nom musulman. Elle sera, à partir de la mort de Rebecca, la plus tendre des grand-mères pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, et elle est, Saïdati aujourd'hui encore, notre dernier foyer au Rwanda. Quand mes grands-parents, Frédéric et Rebecca, se séparèrent, Pierre, mon père, grandit dans la tendresse d'une autre femme, Maoua, puis plus tard de sa tante Saïdati. Son père, Frédéric, qui lui avait appris à faire sauter les rochers à la dynamite pour construire les ponts, dut aussi s'occuper de son instruction. Ce fut un grand problème dans un pays organisé en apartheid, où l'admission de ceux qu'on appelait les mulâtres dans les écoles pour Européens se heurtait au refus catégorique de l'opinion coloniale. Frédéric, qui était colon lui-même, et sans doute un brin luthérien, ne voulait pas que son fils suive l'enseignement rudimentaire dispensé aux indigènes par les pères blancs, dont les préceptes étaient repris dans le manuel de l'inspection scolaire du Congo. Je cite « Le maître n'oubliera jamais qu'il n'y a pas d'éducation sans religion et que l'instruction, si elle ne va pas de pair avec une solide culture religieuse, ne forme que des citoyens qui seraient d'autant plus pervertis et dangereux qu'ils seront plus instruits. » Fin de citation. Le salut vint des missions protestantes où mon grand-père nourrissait l'ambition que son fils apprit l'anglais. C'est finalement en suédois que mon père apprendra à lire et à écrire chez le couple de pasteurs Palmers qui lui ouvrit son foyer dans la mission d'Ouvira. À la mort de mon grand-père en 1941, et après quelques autres séjours dans les missions protestantes, mon père fut finalement placé par son parrain, Henri Wagman, chez les frères spiritains de l'Ubunda, au Congo, où des locaux séparés venaient d'être aménagés pour que les petits mulâtres et les petites mulâtresses y reçoivent un enseignement un peu plus poussé que les Noirs. Une initiative qui vit le jour grâce à la charité d'une dame de l'aristocratie belge qui s'était émue de voir un grand nombre de ses petits sangs mêlés courir derrière le train qui l'emportait à travers le Congo. C'est peut-être la même personne qui s'apitoie dans les lignes d'un article paru en 1927 dans le bulletin de l'Union des femmes coloniales quand elle écrit, je cite, « Pauvres innocents nés de l'écart des civilisateurs, pourquoi n'avez-vous pas de nid? Pourquoi vous oublie-t-on sans remords apparents? Pourquoi dans tant de villages vous retrouve-t-on épaves errantes à la mine piteuse? Femmes blanches, au cours de vos voyages, si vous rencontrez de ces lamentables plantes sauvages perdues dans la brousse, songez qu'elles sont greffées de sang européen, qu'elles réclament un tuteur, un jardinier pour leur âme. » Fin de citation. Il n'est pas inutile de rappeler aujourd'hui que la première immigration massive d'un continent vers l'autre fut celle de jeunes Européens célibataires, âgés de préférence de 25 à 35 ans, qui arrivèrent au Rwanda ou Burundi dans l'entre-deux-guerres. Mon grand-père maternel, Léon-Joseph Robert, fils d'un agriculteur des Ardennes, entre au service colonial belge en 1932. Cet ingénieur agronome, diplômé de la prestigieuse faculté de Jean Blou, n'a que 24 ans. Et ce que n'avait prévu ni l'État ni l'Église, c'est que malgré l'idéologie de ségrégation raciale, des unions sexuelles et sentimentales allaient se nouer entre ces jeunes gens et les jeunes africaines. Dans le cas particulier de mon grand-père, Léon-Joseph, ce fut le roi du Burundi, Mwambutsa, petit-fils de Mwezi Gisabo, qui lui présenta une jeune fille de sa famille et de sa région, Muramvya, afin qu'il vive avec elle une union stable. Cette initiative est un exemple rare, sinon unique, de la tentative du côté des Africains de canaliser ces inévitables unions et d'éviter ainsi aux jeunes filles le fléau de la prostitution qui ravageait les centres urbanisés du Congo. Mais devant le scandale du nombre toujours plus élevé de mulâtres, les autorités belges durent se résoudre à prendre elles aussi des mesures, et c'est ainsi que naquit le fameux débat autour de la question des mulâtres que Licia Jurissen, dont j'ai beaucoup exploité et cité les travaux sur le sujet, qualifie, je cite, « du plus délicat tabou ayant secoué l'idéologie identitaire forgée par la colonisation européenne en Afrique ». Fin de citation. Derrière l'altruisme chrétien de la bienfaisance coloniale huppée que l'on a vue à l'œuvre à Lubunda, où mon père fut instruit, se cachait la crainte que cette population, au sort juridique chaotique, devenue un bloc social incontrôlable, puisse faire trembler les assises de la colonie. Et parmi les solutions destinées à neutraliser ce phénomène inédit, l'on pensa d'abord à l'indigénisation des mulâtres, c'est-à-dire à leur disparition naturelle au fil des générations dans la masse indigène. Mais l'on s'émut de la goutte de sang blanc qui coulait dans les veines de ces plantes sauvages, et l'on évoqua vers les années 20, dans les couloirs du ministère des colonies, la possibilité d'une transplantation systématique des enfants de statut européen en Belgique. Sauf qu'une grave question surgit aussitôt. Je cite. À ces enfants instruits dans la métropole, à l'égal des enfants blancs, pourra-t-on refuser l'entrée à l'école militaire, à l'université coloniale ? Fin de citation. Le risque était trop grand, en effet, de voir des mulâtres accéder à des postes de commandement à l'intérieur du personnel belge de la colonie. Finalement, sous la pression des associations caritatives de propagande coloniale, comme l'APPM, Association pour la protection des mulâtres, on opta pour la racialisation des mulâtres, en décidant de les éduquer dans des institutions qui leur étaient exclusivement réservées, ce qui présentait un intérêt stratégique qu'avait bien deviné le directeur de la mission de Tumba quand il écrit, je cite, que ces enfants bien élevés et ayant reçu le plus d'instructions possible rendront à la colonie de véritables services. Fin de citation. C'est dans le même esprit que Pierre Reichmans, devenu gouverneur, propose au ministre des colonies, dans une lettre de 1938, rien moins qu'un rapt légalisé de ses enfants. Il estime en effet, je cite, qu'il conviendrait que le législateur donnât aux autorités le moyen légal de retirer l'enfant mulâtre du milieu indigène, même si cet enfant n'est pas délaissé, abandonné ou orphelin, en vue de déférer sa tutelle à des institutions philanthropiques qui lui assureront l'éducation de l'indigène civilisé. C'est de ce rapt que fut victime ma mère, Aline, précisément dans ces années-là. Son père, Léon Joseph, était rentré en congé obligatoire en Belgique quand la guerre éclata. Ma grand-mère, restée seule, n'eut d'autre choix que de confier sa fille à l'institution pour mulâtres de Savé, avec l'espoir que son père l'y viendrait rechercher. Pour sa part, elle ne survécut pas à son chagrin et mourut en nous laissant comme seul souvenir un prénom, Chimpaye, que porte ma fille Lucie, et le collier que je porte ce soir, grâce à la tendre complicité de ma fille qui a bien voulu me le prêter. La guerre qui avait interrompu les communications entre les deux continents, ainsi que d'autres obstacles tout aussi insurmontables, empêchèrent les retrouvailles. Quand la guerre s'achève, Léon Joseph a 40 ans, il a refait sa vie. Philippe naît un an plus tard au Congo, suivi bientôt de son frère Paul. En 1960, la nouvelle famille de Léon Joseph quitte le Congo, secouée par les événements de l'indépendance. 4 ans plus tard, en 1964, c'est l'émotion des retrouvailles entre Léon Joseph et sa fille Aline qui trouvera finalement sa place aux côtés de ses frères à l'heure de l'héritage. À Savé, ma mère suit les cours élémentaires dispensés par les Benevikira, la congrégation de sœurs noires fondée en 1913 par Monseigneur Hirt, en même temps que les frères Joséphites, pour dispenser l'enseignement primaire. Mais après la cérémonie de baptême qui couronnait la fin de ses études primaires, ma mère vit brusquement sa scolarité s'interrompre. Il n'y avait plus rien pour elle. Ou plus exactement, on attendait qu'arrivassent de Belgique les sœurs blanches, chargées d'ouvrir l'année suivante l'école normale où allaient être formées les futures enseignantes du secondaire. Dans l'attente, ma mère fut envoyée à Uzumbura, la capitale de l'Urundi, pour aider les religieuses de l'école Stella Matutina à emmener à la plage les classes de maternelle. Il lui était interdit, en revanche, d'y suivre l'enseignement secondaire dispensé aux petits blancs de son âge. Je pense bien que ma mère a ressenti quelque légitime fierté lorsque, 25 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés, ma sœur et moi, à l'école de Deunbergen, assises sur les mêmes bancs que la princesse de Ligne, la comtesse d'Ursel et la baronne Fallon, et que nous avions en outre, contre toute attente pour certains, de meilleurs résultats scolaires que tout ce gotha belge. L'instruction de l'indigène civilisé, pour reprendre l'expression de Reichmans, fut quant à elle doublement discriminatoire, puisqu'elle fut non seulement limitée dans son contenu, mais encore réservée à une seule partie de la communauté. Comme si, dans cette stratégie de domination, la Belgique ne pouvait s'empêcher de transmettre à sa colonie la gangrène de sa propre fracture communautaire. En 1922, le professeur Édouard de Jong expliquait à Anvers aux futurs administrateurs et agents coloniaux, je cite, que dans une colonie tropicale où le blanc ne peut s'établir comme colon et faire souche, il lui est tout indiqué de songer à la formation d'auxiliaires. C'est dans ce but que fut créé en 1929, sous le gouverneur voisin, le groupe scolaire d'Astrida. Sa création et sa gestion furent confiées aux frères de la charité de Gand, selon la convention de Hong, qui en faisait, je cite, une école de l'État confiée à l'Église. L'école d'Astrida devait former des auxiliaires de l'administration, comme les candidats chefs, les assistants médicaux, vétérinaires et agricoles, choisis surtout parmi l'élite traditionnelle, les Ganois, c'est-à-dire les princes de sang, et les Tutsis. Elle limitait ainsi aux Hutus l'accès aux fonctions de l'administration coloniale et donc à la vie politique. Baranyanka demanda au gouverneur voisin de créer à Astrida un cursus général complet qui permette aux élèves d'aller poursuivre leur cycle universitaire en Belgique. Il préconisait ainsi, en 1929, en même temps que l'éducation des filles, la formation d'une élite burundaise. Le mandat du gouverneur touchant à sa fin, il n'eut pas de suite à sa requête. Quand le fils aîné de Baranyanka, Jean-Baptiste Nhidendereza, sortit premier de la promotion 1941 d'Astrida, la Belgique était en guerre. Jean-Baptiste prit donc ses fonctions de chef, qu'il exerça avec passion et compétence. Quand son frère Joseph Biroli sort à son tour premier de la promotion 1948, son père décide de revenir à la charge et introduit une demande pour que son fils poursuive ses études. Des difficultés surgissent, dont le refus catégorique du gouverneur général à Léopoldville, Léo Pétillon. Finalement, sous la pression des Nations Unies, qui exigeait que la tutelle accélère l'émancipation de ses territoires, conformément aux clauses du mandat B, Pierre Vigny, le ministre des colonies, finit par accepter. Mais quand Biroli arrive en Belgique en 1949, le ministre doit se justifier face aux députés indignés d'une initiative aussi subversive dans une colonie de si bonne entente. Vigny le rassure alors que Biroli vient d'une famille amie des Belges et que la prise en charge financière imposée à la dite famille empêcherait toute émulation. De fait, seul le fils du roi Mwambutsa, le prince Louis Rwagasore, sera en mesure de rejoindre Biroli 2 ans plus tard à l'université coloniale d'Anvers, celle qui, 30 ans plus tôt, avait refusé d'ouvrir ses portes aux mulâtres. En 1955, Biroli obtient sa licence en sciences économiques à Louvain et devient ainsi le premier universitaire de toute la colonie belge, Congo et Rwanda-Urundi confondus. Après une année passée au ministère des colonies, il s'inscrit en doctorat entre 1956 et 1958 à St. Anthony's College, le plus international des collèges d'Oxford, et dans ce cadre participe pendant l'été aux fameux séminaires internationaux de Harvard dirigés par Henry Kissinger. Il entre ensuite au marché commun et s'apprête à retourner à Oxford quand il est rappelé d'urgence au Burundi en 1960 pour un destin dont il ignore encore tout et qui lui volera sa vie en même temps qu'une carrière prometteuse d'économiste surdoué. En effet, le prince Louis Rwagasore, de retour au pays en 1958, fonde l'UPRONA, Parti de l'Union et du Progrès National, dont les aspirations indépendantistes terrorisaient la tutelle, qui brandit une fois de plus l'épouvantail du communisme, notamment après l'initiative du prince de créer des coopératives commerciales indigènes. Le résident du Burundi, Ivan Reisdorf, estime alors, je cite Paul Arroy, gouverneur à l'époque, « malgré d'évidents inconvénients, la création d'un parti Baranyanka avec l'excellent attelage Biroli Hidendereza constitue la meilleure, sinon la seule possibilité de faire échec à Rwagasore. Baranyanka tente de résister, mais il est finalement contraint de prendre la direction du nouveau parti créé par la tutelle, le PDC, Parti démocrate chrétien, avec ses 2 fils. Biroli est alors sommé de rentrer au pays. On connaît la suite. L'UPRONA remportera massivement les élections législatives le 18 septembre 1961 et moins d'un mois plus tard, le 13 octobre, le prince Louis sera assassiné. L'enquête menée par un procureur belge, Jacques Bourguignon, donnera lieu à un procès dont tout Burundais sera exclu. Seront jugés coupables les leaders du PDC, Hidendereza et Biroli, et leurs divers complices. Ils seront condamnés à de lourdes peines, mais aussitôt l'indépendance acquise, le 1er juillet 1962, le procès sera révisé et le nouveau jugement sera sans appel, la peine capitale pour les 2 fils Baranyanka. Relisons à rebours cette page d'histoire politique et revenons d'abord 2 ans en arrière, en 1960, lorsque Baranyanka, âgé de 70 ans, n'a d'autre choix que d'accepter la direction du PDC. Biroli, pour sa part, va se rebeller et ruer dans les brancards de l'attelage qui le liait à Hidendereza. Lorsqu'il prend la décision de signer seul avec son cousin, le prince Louis, le 5 juillet 1960, au lendemain de la débâcle congolaise, la motion des partis du Burundi, suivie du fameux communiqué à la population du Burundi. Les 2 princes y affirmaient sans embâge et d'une seule voix, je cite, que les partis du Burundi, pour l'avenir de leur pays, pour les intérêts supérieurs et sacrés du peuple burundais, étaient d'accord d'oublier les petits détails qui les opposent et de proposer à l'administration tutélaire un protocole commun pour préparer le Burundi à accéder à l'indépendance dans des conditions meilleures. Ces documents feront dire aux enquêteurs de l'ONU que, je cite, l'entente cordiale s'établissait spontanément entre tous les Burundis. Fin de citation. Ils condamneront du même coup la tutelle pour avoir, je cite, délibérément saboté ce bienheureux processus de réconciliation. Fin de citation. Ceux qui rouvriront avec les compétences que je n'ai pas ce dossier bâclé de l'histoire du Burundi, qui est aussi l'histoire de la Belgique et l'histoire tout court, devront analyser avec impartialité Ces documents qui remettent en cause la thèse officielle, relayée par la bibliographie la plus récente, selon laquelle, je cite, « le conflit entre l'Uprona et le PDC était en réalité une rivalité entre deux factions princières, les Béhési et les Bataré ». 8 ans avant sa mort, quand Biroli obtint sa licence en sciences économiques en 1955, il exprima publiquement les ambitions qu'il nourrissait pour son pays. Il prônait, à côté de l'industrialisation du pays et de l'étude du droit minier, je cite, « l'éducation pour tous et la formation universitaire d'une élite nationale », réitérant ainsi les vœux paternels exprimés 30 ans plus tôt au gouverneur voisin. La réponse du gouverneur à Roy l'indigna, qui ne laissait espérer, je cite, que des écoles de médecine vétérinaire et d'agronomie dépendant de la future université d'Elisabethville au Congo. Ce n'est qu'en 1963, l'année même de sa mort tragique, que le rêve de Biroli se réalise. L'université du Burundi est créée, qui allait former les nouvelles élites du pays, parmi lesquelles son neveu, Jean-Marie Ngendahayo. En reprenant à son compte le lourd héritage familial, Jean-Marie allait s'attacher à ce qu'il transmettait de meilleur, se consacrant à la politique avec la même passion que son oncle et parrain, Jean Hindenderesa, et cherchant à garder l'esprit critique d'un Biroli. Mais dans une nation née dans le sang des siens, Jean-Marie comprit avec d'autres que l'instauration de la démocratie passait nécessairement par la promotion des droits de l'homme. C'est ainsi qu'après un court passage dans l'enseignement, il participe à la création de la première Ligue des droits de l'homme au Burundi. Et quand vient l'espoir de la démocratie, ce Ghanois de lignée princière, combattant tout préjugé ethnique, entre en politique comme ministre député dans le gouvernement du premier président Hutu élu démocratiquement, Melchior Ndadaye. Après l'assassinat du président, c'est le temps cette fois des négociations pour la paix, auxquelles Jean-Marie participe comme ministre d'État chargé des relations extérieures et de la coopération internationale. Échappant de justesse à un attentat dans sa circonscription, il connaîtra 10 ans d'exil, puis le retour au pays pour piloter comme ministre de l'Intérieur les élections législatives et présidentielles d'août 2005. Réélu à l'Assemblée nationale, sa lutte contre l'intransigeance politique de son propre parti lui vaut aujourd'hui un second exil dans lequel il s'apprête à reprendre l'enseignement universitaire tout en poursuivant sa lutte pour les droits de l'homme. Ainsi s'achève, avec oncle Jean-Marie, le long et douloureux processus d'accès libre, fraternel et égal à l'instruction dont bénéficie aujourd'hui dont bénéficient ses filles. Donc la génération de ses filles, qui est également celle de ma fille Lucie et de tous ses cousins et cousines. Alors là, je vais faire suivant. Voilà. Donc ça ne marche pas. Voilà, tous ses cousins, ses cousines, les petits, les grands, les proches, les lointains, ceux qui sont aux études, ceux qui travaillent déjà. Voilà, toute la famille. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Ah, oula. Bon, je vais m'arrêter là. Véritable citoyen d'une humanité, voilà, d'une humanité plurielle et généreuse, à qui je dédie avec amour les pages imparfaites de cette biographie familiale. Et pour conclure cette biographie, revenons à mes parents, qui eux aussi se rebellèrent à des destins imposés, mais de manière pacifique et toujours sans haine, d'abord en échappant à ces unions conjugales assorties qu'organisaient leurs institutions respectives, conséquence inévitable de la racialisation des mulâtres. Ils firent un mariage vraiment romantique, dont voici l'histoire. Une certaine Madeleine, mulâtresse aussi, qui avait connu ma mère à Savé, avait dit à mon père, rencontré plus tard, qu'il lui faudrait épouser Aline, qui lui ressemblait beaucoup, le jour où il déciderait de convoler. Mais elle avait alors 12 ans. Quelques années plus tard, Pierre se rendit à Savé, où son charme ne tarda pas à détourner Aline de sa vocation religieuse, malgré les larmes des sœurs blanches. Ils se dirent oui, et parmi les invités à la noce figuraient en bonne place Mahoua et Saïdati, les deux femmes qu'il avait élevées, et le couple Palmers qu'il avait instruit, exemple encore de solidarité et d'humanité paradoxale. Mes parents refusèrent également de quitter le Rwanda quand les associations chrétiennes caritatives comme l'APPM coordonnent à la veille de l'indépendance avec les gouvernements la déportation de tous les mulâtres vers la Belgique où ils sont adoptés par des familles en mal d'enfants sur la foi d'un acte d'abandon signé d'une croix par des mères illettrées. Et tandis qu'ainsi se diluait en Belgique dans la masse européenne toute trace de sang noir, toute trace du péché colonial, en Afrique, on venait de rayer d'un seul coup de la population des colonies belges une génération entière d'enfants mulâtres. 15 ans plus tard, quand le père de Lose, qui avait organisé les adoptions en pays flamand, revint en visite au Rwanda avec d'autres Belges, plusieurs de ses enfants volés, devenus grands, firent aussi ce voyage à la recherche de leurs racines. Restés au Rwanda, mes parents assisteront en 1959 au premier génocide des Batutsi, dans lequel l'Église allait perdre une première fois son âme. Dans ce pays traumatisé, ils décideront de vivre leur vie et d'agir pour leur pays quand l'occasion se présente, comme en 1975, quand l'ONU déclare l'année internationale de la femme. Ma mère est alors choisie comme présidente car elle avait la nationalité rwandaise, bien que fussent barrées sur sa carte d'identité les mentions ethniques Mututsi, Mhutu et Mutwa. Et quand le président de la République, Habyarimana, celui dont la mort a déclenché en 1994 le second génocide des Batutsi, donc quand le président pour la félicitera au terme d'une année pleinement réussie et voudra la récompenser, Aline lui demandera à 3 reprises et obtiendra finalement la libération de toutes les prostituées qui avaient été raflées dans le pays au cours de cette même année de la femme dans un but d'édification morale et enfermées dans la prison centrale de Guitarama, où ma mère avait réussi à faire acheminer des stocks de lait en poudre pour les nourrissons incarcérés avec leur mère. Le jour de leur libération, après une nuit de fête, ce fut devant notre maison le balai incessant des bus envoyés par toutes les préfectures pour ramener chez elles les femmes et les enfants vêtus des petits habits que nous avions confectionnés tout l'été, mes sœurs et moi, sur la singère à pédales de maman. Aujourd'hui encore, les femmes au Rwanda se souviennent des discours de maman, comme l'actuelle propriétaire de notre maison de Guitarama, qui à l'époque était une jeune fille de notre âge. Mes parents, dont on avait voulu faire des enseignants utiles à la colonie, devinrent au contraire des commerçants prospères en créant la minoterie du Rwanda-Burundi, la Minorudi, qui transformait le manioc en farine. Mais l'aventure faillit mal tourner le jour où la nationalité française de mon père lui fut cette fois préjudiciable, puisque son nom figurait en première place sur la liste établie par la sûreté des riches commerçants étrangers à expulser du pays. Quand le président Grégoire Kayibanda demanda au général Habyarimana, qui n'était alors que le chef de la sûreté, s'il savait qui était Wagenheim, et que ce dernier répondit que non, il lui apprit que Wagenheim, c'était la société Minorudi qui nourrissait l'armée qu'il commandait et toutes les prisons du pays. Le lendemain, mon père fut acclamé à Kigali comme un sauveur par les commerçants dont le nom figurait aussi sur la liste qui avait été purement et simplement déchiré par le président. Mais plus tard, quand les pressions recommencèrent, mes parents décidèrent d'aller au Gabon, riche en pétrole, un pays non seulement ami des Français, mais aussi ami des mulâtres, puisque nous découvrîmes avec stupéfaction qu'une grande partie de l'élite était précisément composée de mulâtres, ceux de la génération anéantie dans les colonies belges dont mes parents étaient de rares rescapés. Stupéfaction encore quand mon père découvre que toutes les secrétaires de son ami mulâtre étaient des blanches, et stupéfaction toujours quand il entend ce même ami s'extasier dans sa voiture climatisée devant le courage des travailleurs polonais creusant des canalisations en plein soleil, c'est-à-dire à l'heure où les Gabonais font la sieste. Pour nous aussi, les enfants, considérés jusque-là comme des Noirs en Belgique et comme des Blancs au Rwanda, nous découvrions un monde pluriel, ce groupe de nos amis multicolores, composé de mulâtres, de Noirs et de Blancs, qui nous emmenait danser l'été dans les boîtes branchées de Libreville, au grand scandale de mes parents, et qui nous invitait l'hiver, loin de tout contrôle parental cette fois, dans les résidences somptueuses de leurs parents ministres du côté de l'avenue Foch ou dans celle de l'ambassadeur à Rome où l'on passait les fêtes de Noël. Mais ce qui nous éblouissait, bien plus que les ors de cette jeunesse, c'était que ces jeunes qui avaient intégré centrale HEC ou Normal Sup, entrait dans ces fabriques de l'élite française, non pas en pionniers, mais après leurs parents et même après leurs grands-parents, ceux de la génération de Senghor, de Césaire et qui était aussi celle de Baranyanka. Mais tandis que leurs grands-parents siégeaient à l'Assemblée nationale pour y défendre les intérêts de leur pays, leurs homologues belges s'opposaient à l'entrée de Biroli à l'université et faisaient que le Burundi allait accéder à l'indépendance avec moins de 6 universitaires. Après le Gabon, quand l'âge et la maladie devinrent trop lourds à assumer, mes parents décidèrent de se rapatrier en France, où ils avaient cotisé toute leur vie sans jamais y mettre les pieds, sauf en vacances. Une patrie que l'Alsacien Frédéric Wagenheim, né lui aussi loin de la France, en Catalogne, et qui repose désormais au Burundi, leur avait offert en héritage pour eux et pour leurs descendants le jour où il décida, envers et contre tous les préjugés racistes de son époque, de donner à son fils bien-aimé, né d'une mère noire, son nom et sa nation. Entre deux continents, entre divers pays, Rwanda, Burundi, Gabon, Belgique, Italie, France et Royaume-Uni, au contact de plusieurs religions, participant à deux races, comme on disait autrefois, au milieu de bien des soubresauts de l'histoire, par mon existence personnelle, comme par l'héritage pleinement, passionnément assumé d'une histoire familiale qui fut une odyssée et aussi parfois une Iliade, j'étais donc préparée à découvrir l'humanisme et à travers l'exemple de ma famille, le combat pour l'humanisme, une lutte constante contre injustice et discrimination, tenace mais sans acrimonie, à l'égard des dominateurs ou même des réticents, combat pour la reconnaissance, la dignité et l'épanouissement de tout être humain. Mais un autre facteur déterminant est intervenu, la matrice africaine, l'Afrique que l'auteur latin Juvénal qualifie de « nutricula causidicorum », la nourrice des avocats. Elle m'a nourri de mots pendant les 7 premières années de ma vie qui furent intactes de tout apprentissage de l'écriture et de la lecture. La parole déclamée de sa poésie héroïque et populaire, aujourd'hui unanimement admirée, que nous récitaient inlassablement les boys et dont je vous lirai un extrait à la fin de la conférence. En découvrant Virgile et ses chants amébés, structurés comme nos énigmes et devinettes appelées Ibisakuzo, et les images d'Homère qui sont celles de la poésie pastorale rwandaise, j'eus la révélation que la lyrique gréco-romaine était elle aussi avant tout une poésie orale, et c'était comme si mon enfance ne s'était jamais interrompue. Merci. Je vais vous lire maintenant ce poème. Alors, la poésie pastorale chante les troupeaux de la race Inyambo. organisée en armée bovine. C'est une poésie guerrière dans laquelle les vaches sont comparées à des amazones armées de deux javelines. Elles sont divisées poétiquement en deux clans qui se livrent une guerre perpétuelle sous l'aspect de la beauté. Le roi nommait les chefs des milices bovines et quand le troupeau était attaqué, c'était le pasteur qui recevait les coups de javeline. Le troupeau chanté dans ce poème fut emporté par la peste bovine en 1893. L'aide-compositeur fut Ndangamira, fils de Muyoboke. Dans cette ode, c'est le pasteur en chef, Semuhire, qui va être attaqué, puis blessé dans sa fuite. La javeline qu'il atteint est barbelée, et la question qui se pose aux parents est de savoir comment l'enlever. L'aide détourne les parents d'une tentative qui ne ferait que torturer l'homme blessé. La javeline, devenue bête féroce, dévore sa proie sous les yeux admirateurs du poète. Après la lecture, vous entendrez un morceau du chant des bardes qui accompagnait leur récitation poétique d'un instrument à cordes appelé inanga. La lancière qui étanche la soif de sa vivacité, tandis que les armées poursuivent les fuyards, souche du grand jour éclatant, race aux coups mortels, foudre surexcitée de robustes complexions qui fonce sur l'avant-garde. Aux foudres, elle donne le signal d'éclater dès leur apparition dans les airs. Le kraal du fils de Mutabura, dès qu'elle l'atteignirent, elle l'encerclèrent, et ceux qui en sortirent furent exterminés, tombant au milieu de puissantes amazones. Parmi eux, la favorisée de succès fit son choix. En brandissant sa bâillonneuse des batailles, zaguée à la reluisante lame de fer, emmanchée d'un bois solide trié parmi les meilleurs du Bougoyi, tout hérissé de braises ardentes. Dès que Semuhire se montra, elle la lui planta dans le dos. Le trait le perfora de toute la largeur des crochets et la lame refusa qu'il le transperçât de part en part. Elle campa à l'intérieur, dans le sein. S'y installant, elle devint comme une poutre. Il répandit son sang rouge vif, et la javeline se réserva exclusivement ce régal. Elle s'en rassasia et s'en imprégna, son volume s'en gonfla, de manière à pouvoir obstruer les entrées. Pour le retirer du corps, on s'assemblait. Lorsque je criai à tue-tête, « Puisque le bout du trait est caché à vos yeux, dis-je, sur lui s'étant refermée la peau du corps, c'est inutilement que vous allez élargir la blessure. » Le coup est l'héroïne redoutable d'entre les adoratrices des hauts faits. Du corps, on renonça à retirer la javeline. Elle s'étala sur la dépouille mortelle. Elle s'y reposa et poussa des rugissements. Elle ne voulut pas faire place aux oiseaux de proie qui tentaient d'arriver sur les lieux du combat. Comme je la contemplais, foulant aux pieds son vaincu et l'entamant de bon appétit, « Menée, pâturée que tu es, par une triomphatrice, lui dis-je, je crois qu'à jamais ta faim est apaisée. » C'est de la sorte qu'elle abreuve ses traits, la nommée passionnée des hauts faits.
Nous allons procéder aux questions, s'il vous plaît. Alors, une question au milieu. Non.
Non. Ah.
Est-ce qu'il y a des questions? Une question au milieu.
Oui, vous venez d'une façon très intéressante et très émouvante de nous parler de l'Afrique, enfin, et de la partie de l'Afrique que vous, évidemment, connaissez par cœur. Maintenant, la situation des pays voisins, comme l'Éthiopie, par exemple, où on parle de famines qui vont se déclarer incessamment, les cas tragiques et dramatiques d'énormément de ces pays. Quelles solutions pouvez-vous nous donner, en fait?
Écoutez, je ne pense vraiment pas que je puisse vous donner des solutions à des problèmes politiques, socio-économiques. Je ne suis qu'un chercheur en littérature latine.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question au milieu, et après il y aura une question à gauche. Attendez le micro, monsieur, s'il vous plaît. Merci.
Moi, je veux juste remercier madame pour ce témoignage. En lisant le texte de la conférence à l'extérieur, j'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Je suis très heureux qu'à travers Merci. Vous, on trouve cette histoire formidable.
Merci.
Une question en haut à gauche.
Moi, je me demandais quel regard, enfin, je crois que j'ai à peu près, je pense avoir cerné votre regard sur la colonisation après votre récit. Moi, je m'y suis assez intéressé ces derniers temps, et donc en tant que petit Français qui découvre un petit peu l'histoire, j'ai toujours été globalement un peu horrifié par la colonisation et tout ce qui pouvait être... Vous êtes justement le fruit de la colonisation et vous en donnez un rayonnement, enfin un retour positif justement. Donc ça m'a un peu remis à ma place dans le côté mal, bien de toute cette histoire. Mais donc au final... je sais pas comment formuler cette question-là, mais oui, vous, votre regard justement sur la colonisation en général, au-delà de votre histoire personnelle, est-ce que fondamentalement vous y voyez plus de bien que de mal, ou est-ce que c'est plus mesuré, ou parce que sans la colonisation, je serais pas en train de vous parler. Mais voilà, je voulais savoir, je sais pas si ma question est claire, mais quel est votre avis, vous, sur la colonisation en général, quoi? Oui.
Écoutez, moi, je pense que la chose importante, c'est l'accès au savoir. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Et enfin, ce que je vois, c'est le combat de ces personnes pour accéder au savoir. Un combat qui était quand même freiné par la colonisation. Et quand j'évoquais, par exemple, le cas de la colonisation française, enfin, un petit exemple à travers mon expérience personnelle, qui était donc le parcours de des personnes de mon âge au Gabon, je pense que là aussi, on ne peut pas dire qu'il y ait un bienfait d'une colonisation ou de l'autre. Je crois que c'est la force de l'instruction démocratique et publique qui était celle de la France et qui n'était pas parasitée, si je puis dire, par la religion, qui a fait que, voilà, justement, que des personnes comme Senghor. Donc je crois plutôt à la force de l'éducation, du savoir, à l'accès du savoir, malgré la colonisation, si je puis dire. Voilà, c'était ça mon message, c'était que l'accès au savoir, mais pas seulement au savoir européen, au savoir aussi de ma famille. Nous avons aussi un énorme savoir qui nous a été transmis oralement. Un Baranyanka, par exemple, était très grand sans la colonisation. C'est ça, je crois, qu'il faut voir. Et ensuite, il y a eu ce miracle d'une éducation laïque française qu'il faut applaudir et qui, malgré la colonisation, voilà, a apporté cela. Mais c'est malgré la colonisation, je dirais. Une question au centre.
Oui, bonjour. En fait, j'ai trois questions.
Ah, pardon.
Questions, en fait, elles sont assez courtes. Premièrement, en fait, par rapport à vos parents, ils sont restés en Afrique, au Rwanda, ils n'ont pas voulu en Belgique. En fait, quelle était la raison? Et deuxième question, en fait, comme ça, je vous laisse en fait continuer. Deuxième question, comment on voit, quelle vision avait-il en fait de l'Afrique à cette époque? Pourquoi en fait à être resté justement, c'est justement en fait un balancement par rapport à ce que je dis. Pourquoi être resté en Afrique, en Rwanda, plutôt que de partir en Belgique? Et troisième question, la dernière. En fait, là, ce serait plutôt pour par rapport à ce que vous êtes aussi devenu. Une question que j'aimerais savoir, c'est l'intégration en fait en tant que noir dans la société française actuelle, a-t-elle en fait justement effacé ou alors réduit ou alors enlevé le côté africain que vous êtes aussi?
J'espère que non, je l'ai quand même montré. Non, je ne sais pas, je ne pense pas que le côté africain soit enlevé en moi. D'abord, il y a ma couleur, il y a ma culture que je partage avec mes amis, mes collègues de l'université. Donc non, je ne pense pas que cela ait changé quoi que ce soit. Je pense encore une fois que quand on a une même instruction, un même métier, la couleur de peau change. Moi, j'ai des rapports excellents avec des collègues latinistes et hellénistes qui sont d'ailleurs ici, avec lesquels on travaille ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment aussi l'humanité plurielle qui ne passe pas nécessairement par des couleurs différentes. Alors, pour ce qui concerne mes parents, eh bien, mes parents étaient nés au Rwanda. Ils ne voyaient aucune raison de s'arracher à leur pays. Ça n'avait aucun sens pour eux. La chance qu'avaient mes parents, et ça c'est une question de calendrier si je puis dire, c'est qu'ils étaient majeurs, c'est qu'ils étaient mariés, et donc qu'ils ont pu rester. Mais d'autres couples mariés, par exemple, de mulâtres, sont partis. Non, eux, c'était leur pays, ils ne connaissaient pas la Belgique, ils étaient adultes, ils ont décidé de rester là. Pour eux, il n'y avait pas de raison d'aller en Belgique. Ils ont résisté, finalement, à cette européanisation. Et ils nous ont toujours transmis cette double culture qui était la leur. Oui.
Une question au centre, toujours.
Deux points, s'il vous plaît. J'ai peur de ne pas bien formuler ma question. Concernant le Rwanda, on a l'impression que votre généalogie s'arrête à la veille d'événements hyper catastrophiques.
Lesquels? Parce qu'il y en a deux. Enfin, il y a deux génocides.
Le grand génocide.
Enfin, l'autre était aussi grand. Hein, oui, il y a deux génocides.
L'un et l'autre.
Oui.
Parler d'humanisme, on a l'impression que c'était un peu le triomphe de la barbarie plutôt. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet? Enfin, je ne sais pas bien formuler ma question. Mais enfin.
Oui,
Et ma deuxième question, qui est plus anecdotique, du côté paternel, vous parlez qu'il est né en Moselle.
Non, il n'est pas né en Moselle, il est né en Catalogne.
Non, votre ancêtre, vous parlez de la Lorraine et... une fois de la Lorraine, et ensuite vous parlez alsacien. Il était lorrain ou alsacien? La Moselle n'est pas
oui,
en Alsace.
Oui, bon, attends. Excusez-moi. Écoutez, je ne vais peut-être pas vous parler du génocide aujourd'hui, c'est un sujet, comment dirais-je, ce n'était pas le thème... de cette conférence. Alors, je pense qu'il faut comprendre et en tout cas, voir cette histoire de l'Afrique dans son rapport avec la colonisation, puisque c'est en 59 qu'a lieu le premier génocide. D'ailleurs, selon, si je puis dire, un schéma qui ressemble au second génocide. Je dis second en espérant qu'il n'y en ait pas un troisième, c'est-à-dire qu'en 1959, le roi Mutararudahigwa meurt suite à une injection de mégacilline de son médecin. Il meurt, on ne sait pas s'il a été assassiné, s'il a succombé à une maladie qu'il avait déjà, si c'est un accident. Et à partir de cette mort commence le génocide commence. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et c'est pour ça que j'ai quand même parlé de l'impact de l'Église au Rwanda, qui a joué un rôle dans ce génocide, puisque c'est au moment où l'Église se rend compte qu'elle n'a plus un impact et une domination totale sur l'élite traditionnelle des Batutsi qu'elle avait jusque-là favorisée, puisqu'au Rwanda et au Burundi a eu lieu cette même stratégie de s'appuyer sur l'élite traditionnelle. Au moment où cette élite a résisté, il y a eu un changement de cap et on sait que l'Église a joué un grand rôle dans l'incitation à cette haine. Alors ce qu'il faut savoir, je crois que c'est important, malheureusement je n'ai pas les connaissances suffisantes pour le dire, mais il y a aussi une conception européenne, si je puis dire, de la situation dans ces pays. On ne peut pas réduire finalement le Rwanda à ces deux ethnies. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que l'ethnicisation a été une manipulation politique. Elle a été une manipulation politique et après, eh bien, comme toute politique, il y a le désir de suprématie d'un groupe sur l'autre ou d'un parti sur l'autre. Chez nous, ça a été extrêmement dramatique, évidemment, puisque on en est arrivé au génocide. Mais je crois qu'il faut lire cette histoire dans son rapport à la colonisation. Mais c'est un problème très vaste et que je ne prétends pas dominer, ni je ne peux pas vous répondre plus que cela.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une devant.
Bonsoir. À propos du génocide, de 1959, vous avez eu des mots assez forts. Vous avez dit pour la première fois l'Église a perdu son entendant que dans le second génocide, en espérant qu'il n'y ait pas de troisième, elle a également perdu son âme.
Oui, certains membres, en tout cas, évidemment, je généralise et il est important effectivement de ne pas généraliser à toute l'Église, mais c'est une façon de parler.
Excusez-moi, première question, quelle Église était-ce?
Catholique.
Essentiellement.
Oui, exclusivement.
D'accord. Non, parce que comme il y avait sans doute beaucoup d'Églises, dans votre récit, on voit passer différentes missions.
Oui, mais il faut dire que l'Église catholique et les Pères Blancs avaient la suprématie du contrôle des âmes, si je puis dire. Les missions protestantes étaient très, très peu nombreuses et je veux dire, la religion musulmane n'était pas non plus, n'avait pas énormément de, de représentants. C'était l'Église catholique, cet empire finalement de l'Église ecclésiastique qui a dominé surtout au Rwanda. L'histoire au Burundi est un peu différente. L'impact de l'Église est beaucoup moins fort, était beaucoup moins fort au Burundi. Mais quand même, c'est Monseigneur Classe qui a déposé Musinga, qui était le roi, le père de Mutararudahigwa, parce qu'il ne voulait pas se convertir, parce qu'il résistait. Donc c'est quand même un homme d'église qui a déposé un roi du Burundi pour des raisons confessionnelles. Donc ce sont des choses évidemment qui sont des faits
dont on ne parle pas très souvent.
Pardon ?
dont on ne parle pas très souvent, enfin, j'ai l'impression.
Pas assez, à mon avis.
59, en tout cas.
C'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappé lors du génocide de 1994, c'est qu'autour de moi, beaucoup de personnes ignoraient finalement qu'il y en avait déjà eu un premier, auquel mes parents qui sont là ont assisté. Et il est vrai que le fleuve qui passait devant la maison était rouge de sang et de cadavres qui arrivaient jusqu'au, comment dirais-je, à la hauteur du pont. Donc ça a été un génocide terrible aussi.
Ouais. Pour terminer ma question, mon questionnement, une question donc en liaison avec l'intitulé de cette conférence quels humanistes pour quelle humanité aujourd'hui. Des génocides, deux génocides dans lesquels on peut dire que l'Église a perdu son âme, c'est-à-dire des gens de...
Des
gens de culte, enfin, de foi, de spiritualité et de culture, puisqu'ils étaient également enseignants, j'imagine.
Oui.
Vous avez parlé de l'enseignement français dans les colonies qui a permis de laisser émerger, de faire émerger des élites beaucoup plus que dans la colonisation belge.
Oui, c'est la force du système français.
La force du système, l'enseignement. Les Sancor, Césaire, Fouette-Boigny et autres qui siégeaient à l'Assemblée nationale. Néanmoins, ce qui s'est passé après l'indépendance, on a vu toutes ces élites quand même mises en place par l'ancien colonisateur tomber dans les pièges de la prévarication et de la très mauvaise gouvernance.
Oui, je crois que ce que l'on partage en tout cas...
Pour terminer ma question simplement, excusez-moi, est-ce que vous pensez que le savoir et la culture met à l'abri de la barbarie, je pense au génocide, ou simplement met à l'abri de la prévarication?
Écoutez, c'est mon grand espoir. C'est mon grand espoir. C'est ma raison d'être et de vivre. C'est un espoir.
Nous allons passer à la dernière question en haut, au milieu.
Merci. Bonsoir. Bonsoir. En fait, en vous écoutant, je pourrais écouter mon père quoi, quand il racontait ses choix d'histoire. Ouais. Ça m'en préfère. Sinon, ma question serait tout simplement de savoir est-ce que le nom Bagaza, c'est rwandais ou burundais?
Et que cela signifie... Bagaza.
Bagaza, oui.
C'est burundais, hein, maman? Oui, c'est burundais, je pense.
Et la définition, le sens?
Je ne sais pas. Peut-être que mes parents savent. Je ne sais pas.
Merci.
Je ne sais pas, mais c'est burundais en tout cas.
Merci beaucoup, Ginette Wagenheim, pour cette belle conférence.